Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour le 10h midi. Il y aura Gérard Collard à 11h moins le quart avec les livres. Que peut-on lire cette semaine et ne pas lire, il va vous le dire aussi. Et puis un débat autour du foot. Est-ce que le foot français est en danger? Vous savez qu'il y a une énorme polémique et plus que même plus avec Mediapro qui ne peut pas honorer ses traites. Que va-t-il se passer puisque ce sont les droits du foot qui financent le football français? On va en parler tout à l'heure avec Alexandre Priam, Vincent Chaudel et nous aurons également le député Cédric Roussel en ligne avec nous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous. Décidément, c'est vendredi. Voilà, vendredi 23 octobre. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour madame.
On est ensemble pendant 2 heures à 11h. On va commenter l'actualité évidemment avec vous Gérard Collard. Et puis le débat aujourd'hui très pointu et très précis, mais toutefois grand public, sur le foot. Parce que c'est vrai que le foot français vit une période très difficile.
C'est surtout hier qu'il y a eu la conférence.
Avant-hier,
la conférence de Mediapro, qui est celui qui doit diffuser évidemment la Ligue 1. Donc, bien, c'est un peu compliqué pour le monde du football. Mediapro ne veut pas payer. Du coup, les clubs français n'ont pas d'argent. Est-ce que, du coup, le foot français est menacé? Est-ce que nos équipes vont devoir mettre la clé sous la porte? On vous pose la question.
On n'en est quand même pas là.
Je survends un peu la chose.
La clé sous la porte, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être très compliqué pour les clubs français.
Oui, à 59%. Pour nos auditeurs, évidemment, pour eux, évidemment, le foot français est menacé. Non, à 41%, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et puis vous aurez plein d'éléments dans le débat qui va suivre.
Allez, on commence avec le zapping.
Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping.
Hier, enfin aujourd'hui, enfin cette nuit, c'était le dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Alors pas vraiment de chaos, hein, Valérie, mais un Donald Trump assez offensif et calme. Et il a parlé en particulier des accusations dont il est victime sur le racisme.
C'est la première fois que j'ai entendu parler de Black Lives Matter. J'ai trouvé ça horrible. En ce qui concerne mes relations avec toutes les populations, j'ai de très bonnes relations avec toutes les populations. Je suis le moins raciste de la pièce.
Qu'est-ce que vous dites aux Américains qui s'inquiètent à ce sujet?
Je ne sais pas quoi répondre. J'ai réformé la justice pénale, le système carcéral, je me suis occupé des universités et des facs noires, je ne sais pas quoi dire.
La parole d'un autre dirigeant un peu moins blond, Jean Castex, qui hier soir a changé le destin de 40 millions de Français.
À compter de vendredi minuit, ce sont 54 départements et un territoire d'outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu, soit 46 millions de nos concitoyens. Avec ces mesures, nous poursuivons notre stratégie de riposte graduée et territorialisée.
Alors évidemment, Valérie, dans ces nouveaux départements, la colère gronde, comme à Nice, où Christophe Souquet, un restaurateur, lui ne comprend pas une nouvelle fois pourquoi aussitôt annoncé, eh bien aussitôt exécuté. C'était sur Azur TV.
Il y a des départements où il y a eu des préfets qui avaient été un petit peu intelligents, qui avaient essayé de mettre des applications de décrets à partir du lundi ou du dimanche soir, de manière à ce qu'on puisse au moins avoir quelques sous sur le week-end, puisque en France, malgré tout, on travaille plus le week-end que le reste de la semaine. Ça, déjà, faire ça un samedi, alors ça, c'est un geste fort pour bien casser les jambes du métier. Ça, c'est très clair. Décider qu'un samedi soir, on ferme à 20h, ça, il y a on ne peut plus clair pour le message. Il est très désagréable, il fait très mal. Et très honnêtement, c'est très peu respectueux de nos professions.
Hier, Olivier Véran s'en est pris, toujours lors de cette conférence, au médecin sceptique et a lancé une pique où il visait évidemment le professeur Raoul, mais aussi les médias.
Il m'arrive de trouver le temps d'allumer des chaînes de télévision et il ne me revient absolument pas de faire quelque censure que ce soit. Enfin, on continue d'entendre sur certains plateaux de télévision des gens qui se disent experts en épidémiologie ou en virologie et qui ne le sont pas, et qui continuent de proférer des choses que oui, les personnes fragiles allaient tôt ou tard être atteintes et que non, le virus n'avait pas muté pour être moins dangereux. Je peux vous dire que oui, peut-être qu'il faut trouver d'autres vecteurs, d'autres supports de communication.
Hier, pour finir, c'est à vous, recevait une des rares femmes imam, Kate Nabalu.
Imam.
J'ai dit quoi?
Imam.
Et
imam.
Oui, imam.
Répétez après moi.
Répétez.
Imam. Il y avait une femme rabbin et une femme imam hier sur le plateau de cet avis.
Et donc, elle s'appelle comment la femme?
Je ne sais pas.
Kayla Bayou. Voilà, vous m'avez perturbé. Kayla Baoul. Moi, je suis sûr que vous n'allez pas me reprendre. Évidemment, alors ça, c'est beaucoup moins drôle. Elle racontait comment elle est menacée.
Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des menaces, malheureusement. Mais encore une fois, c'est l'ignorance qui agit, c'est l'ignorance qui parle. Parce que quand on revient à la tradition musulmane, au texte musulman, au texte fondateur, le Coran n'interdit absolument pas à une femme d'être imam.
Et c'était émouvant, hein, ces deux femmes sur le plateau de C'est à vous sur France 5.
Voilà, merci Gilles. On va passer à notre débat du jour qui concerne le football français mis en danger à cause de l'accord avec Mediapro. Mediapro qui n'a pas les fonds pour payer la Ligue de football professionnelle. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, une émission un petit peu particulière. On va parler foot. C'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup ceux qui regardent le football à la télévision. C'est la crise entre la LFP, la Ligue de football professionnel, et Mediapro. Mediapro qui a racheté ses droits et qui aujourd'hui n'est plus en mesure de payer ses traites. Pour en parler, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Priam, journaliste sportif sur Sud Radio. Bonjour.
Bonjour.
Et puis on aura tout à l'heure avec nous Cédric Roussel, député La République En Marche de Nice, qui est en train d'auditionner en ce moment même les différents acteurs du football français. Alors peut-être qu'Alexandre, on va revenir avec vous sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur cet achat de droits qui a été fait par le groupe espagnol, enfin sino-espagnol Mediapro, et qui aujourd'hui menace réellement le foot français.
Oui, menace réellement effectivement le football français. Alors il s'est passé plein de choses, on va essayer de faire court. Ouais. 780 millions d'euros donc pour la Ligue 1, 34 millions d'euros pour la Ligue 2. Ça, c'était le 29 mai 2018, annoncé en grande pompe par la Ligue de football professionnel, qui parle de jackpot, qui parle de révolution dans le football professionnel. De l'autre côté, Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, ouais, lui émet déjà des doutes dès le lendemain. Et un point important, à ce moment-là, la Ligue de football professionnel n'exige aucune garantie financière. Ça, c'est un point important. Parce que quelques jours après, Mediapro perd ses droits en Serie A, justement parce que la Ligue italienne rejette les garanties financières de 1,6 milliard d'euros apportées par Mediapro. Donc ça montre déjà un premier problème d'ordre financier. Ça continue au printemps avec le fait que Mediapro a du mal à créer sa chaîne. Il y a un business plan qui n'est pas très clair, qui parle de 3,5 millions d'abonnés, un prix de 25 euros. Voilà, il y a des chiffres assez étonnants. Et puis, donc, c'est pour faire rapidement cette douche froide début octobre, cette échéance donc du 5 octobre, 172 millions d'euros pas réglés par Mediapro. Ouais. Et ça, c'est très important parce que le président donc de Mediapro, Jaume Errures, faut voir la prononciation effectivement en catalan, mais qui dit à l'équipe, nous voulons rediscuter le contrat de cette saison, on veut renégocier le prix.
À cause du Covid.
Ils prennent prétexte du Covid,
oui. Alors qu'en fait, ils ne sont pas solvables. Enfin, ils n'ont pas les fonds aujourd'hui pour payer ces droits.
Et c'est en tout cas ce que révèle effectivement une excellente enquête du journal Capital, qui explique tout simplement qu'actuellement, au moment en tout cas de payer cette échéance du 5 octobre, Mediapro n'avait que 113 millions d'euros dans ses fonds, et la facture était de 172 millions. Ouais. Donc il n'y a pas assez d'argent pour payer le football français.
Alors comment ça s'est passé, les négociations? Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Vincent Chaudel.
On est dans un cadre classique, j'aurais tendance à dire, d'appel d'offres, avec une structure, la Ligue, qui présente des lots et des acteurs diffuseurs qui ont la liberté d'y répondre et de proposer des prix. La seule chose, c'est que depuis une dizaine d'années, on a eu un cadre juridique qui, parce que aujourd'hui il est de bon ton de pointer des erreurs de la Ligue, notamment ce manque de garantie, et c'est vrai que c'est une erreur, certains pourraient même dire une faute, mais on a aussi un cadre juridique qui pousse à cette faute-là, c'est-à-dire que on a poussé uniquement pour les appels d'offres de droit télé football, un cadre juridique qui vous oblige à prendre le mieux disant en permanence.
C'est-à-dire celui qui offre le plus.
Oui, et donc là...
C'est-à-dire qu'ils sont obligés, c'est-à-dire si quelqu'un enchère et donne une enchère plus forte que les autres, c'est forcément lui.
Oui, mais le législateur n'a pas imaginé un nouvel entrant arrivant from scratch avec zéro abonné. C'est ça le problème, parce que ce cadre-là...
C'est-à-dire que moi, demain, je dis 10 milliards et je les ai.
Oui. Enfin,
grosso modo, c'est dingue.
Oui, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes.
Je vais peut-être les acheter.
Oui, 10 milliards. Oui. Je pense que vous pouvez mettre un peu moins. Mais ça fait partie du problème. Parce que si ce milliard avait été proposé par Bein ou par Canal ou par AMC, qui ont déjà plusieurs millions d'abonnés, on serait pas dans la même situation.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que quand vous êtes média pro et que vous créez votre chaîne Téléfoot, dès la première journée de championnat, vous partez avec zéro abonné.
Ouais.
Donc zéro revenu.
Parlez bien dans le micro.
Zéro droit rentré, enfin, zéro contenu additionnel. Parce que le problème, là, c'est 25 euros pour une chaîne dédiée au football français, essentiellement. Parce qu'ils ont récupéré des droits européens tardivement. Voilà, si on a Canal ou si on a Bein ou si on a RMC, on a un portefeuille de droits de contenu.
Ouais. Et donc c'est une chaîne effectivement Téléfoot qui aujourd'hui est menacée. Je vous propose d'écouter Cédric Roussel, donc qui auditionne les acteurs à l'Assemblée, les acteurs du foot. Alors on est en ligne avec Cédric Roussel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de Nice, président du groupe d'études économie du sport à l'Assemblée nationale, donc secrétaire de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Vous êtes en train d'auditionner un certain nombre de dirigeants de clubs, de syndicats. On est en train évidemment de parler de cette affaire Mediapro. Est-ce que le foot français est en danger aujourd'hui ?
Après les auditions d'hier et encore plus, je pourrais dire qu'il y a une très très forte inquiétude. Donc oui, il y a un danger qu'on souhaite évacuer, mais en tout cas qui est bien présent.
Mais c'est-à-dire, alors que vous ont donné les auditions ? Que disent les clubs et comment est-ce qu'ils réagissent au fait que ce qui les finance, ce qu'on a évoqué, aujourd'hui, les met en danger ?
Écoutez, ils ont juste confirmé des perceptions qu'on avait négatives et qui ont été, à mon sens, donc alimentées encore par l'intervention du président Roures, qui n'a pas été très cohérente par rapport. Enfin, j'ai l'impression, et on a tous l'impression qu'il y a un décalage entre les actes et les paroles.
Ça veut dire que vous pensez que Mediapro ment ? Ça veut dire que vous pensez que depuis le début, non seulement il ne compte pas payer, mais qu'en plus il ment à la fédération ?
Je pense que quand il y a un flou, il y a un loup. Ouais. Je veux dire par là que c'est pour ça que d'ailleurs on a lancé à l'Assemblée nationale au sein du groupe d'études économie du sport, qui est un groupe d'études qui existe depuis 3 ans. C'est-à-dire que ces sujets-là, on les traite depuis 3 ans, puisque c'est un sujet de financement du sport amateur en général, c'est-à-dire de nos politiques publiques, donc c'est un sujet important. Mais effectivement, on ne comprend pas trop, dans le sens déjà que le Covid a bon dos, pour un modèle économique qui était déjà bien connu. Et d'ailleurs, je rappelle juste les déclarations du président Roures au mois de juin, qui était plutôt qui critiquait plutôt les positions des autres diffuseurs historiques sur leur non-paiement des dernières échéances, et en disant que Mediapro allait quelque part sauver la mise. Mais là, on est vraiment dans une incompréhension, dans une manière de faire qui surtout donc perturbe. Et vous savez que ça décrédibilise d'autant Mediapro, puisqu'ils ont quand même une réputation à l'international et des affaires internationales. Mais le problème, c'est que ça aussi décrédibilise un peu le championnat et surtout la valorisation des droits de notre championnat, qui est une valorisation qu'il faut préserver absolument, parce qu'il va y avoir la casse financière, mais aussi la casse sociale. La casse sociale, parce que les clubs, vous savez comme moi, que ce sont des employeurs. Et puis, il y a toute une économie indirecte. Les jours de match, vous avez beaucoup de prestataires, que ce soit les hôtesses, que ce soit la buvette, que ce soit le service de sécurité. Et tout ça, ça représente bon an mal an 35 000 personnes. Donc, c'est une vraie filière sur laquelle il faut être très vigilant, puisque c'est un peu une ambition nationale, c'est de sauver l'emploi en France.
On voit que Didier Quillot et Nathalie Bois de la Tour ont même touché une commission, à ce qui se dit, pour avoir réalisé cette transaction pour le moins hors norme. Donc, il y a une responsabilité tout de même de la Ligue de football.
Alors, ça c'est ce que... J'ai envie de dire, il y a deux temps. Il y a le temps là de l'urgence, et pour trouver des sorties de crise, et puis après, il y a le temps de l'évaluation, effectivement, de la situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les éventuelles erreurs, et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Pour l'instant, on est dans ce temps-là de payer les échéances. C'est-à-dire que la Ligue donc a réagi, c'était à le créancier à trouver une solution, alors que le débiteur, c'est un peu cocasse. On est un peu dans une relation d'un propriétaire, d'un bailleur avec une trêve automnale où le propriétaire, en l'occurrence, donc là, la LFP ne peut pas, pour l'instant, puisqu'il y a une conciliation, ne peut pas faire respecter donc le contrat, puisque quand même dans le contrat, il y a des procédures. Il y a des procédures et il y a une garantie. Donc, la situation juridiquement, elle est bordée. Simplement, on ne sait pas combien de temps dans combien de temps on va trouver une issue. Et puis, il y a quand même, comme je disais, des clubs professionnels qui ont budgété sur la rentrée de cet argent-là, non pas dans 6 mois, mais dans 2 mois.
Oui, mais pourquoi faire des circonvolutions et ne pas dire que la Ligue a eu les yeux plus gros que le ventre et que l'argent a été beaucoup plus privilégié que le confort des clubs, que de se dire on a des clubs, on a des sportifs en France. La Ligue n'en a vraiment rien eu à faire. Pourquoi vous faites des circonvolutions? Je ne vous comprends pas, en fait.
Non, ce n'est pas des circonvolutions.
Si, bien sûr.
Non, je ne crois pas. C'est simplement, il y a des choses, et c'est pour ça qu'il y a ces auditions-là, qui relèvent donc d'informations qui sont confidentielles et que, pour le coup, donc, je découvre moi-même. D'accord. Donc, à un moment donné, je dirais les garanties, il faut juste se rappeler que la garantie, déjà, il y avait une garantie alors que vous regardez d'autres championnats, notamment cette garantie-là, ce niveau de garantie n'est pas possible. Donc, il y a un niveau de garantie. Maintenant, le tout est de savoir si effectivement toutes les précautions ont été prises. Et là, encore une fois, moi, j'aime bien avancer avec des faits. Bien sûr qu'on a, et j'ai moi-même cette perception-là de dire, puisque j'ai moi-même alerté au mois de juin sur, si vous voulez, le fait que on trouvait donc, et je trouvais que le niveau de la garantie, enfin, je voulais comprendre s'il y avait une garantie. Je comprends qu'il y a une garantie, elle a été prise en bonne uniforme, je comprends que celle-ci va être compliquée à actionner. Mais je comprends aussi que c'est une garantie qui est difficile à actionner, quel que soit le contrat ou qu'on le fasse. Donc, à un moment donné, c'est effectivement se poser la question, peut-être, de dire, mais pourquoi avoir pris autant de risques sur un seul nouvel entrant pour 80% de la valeur du championnat? Ça, c'est une vraie question. Effectivement, mais c'est une vraie question qui doit être déjà posée à ceux qui étaient là autour de la table. Donc c'est pour ça que les auditions, elles vont continuer. Là, nous avons vu donc les dirigeants actuels qui découvrent pour certains, notamment je pense à Vincent Labrune, peut-être la situation parce qu'ils n'étaient pas autour de la table. Il se serait intéressant de poser ces questions-là effectivement à Didier Queux. Ça va être le cas dans les prochaines auditions. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler à la place des autres, c'est tout. Mais je suis tout à fait conscient donc de la situation, des responsabilités de chacun. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une responsabilité entre guillemets publique, puisque là on est là déjà pour sauver ce qu'il y a à sauver, puisqu'il y aura une, et c'est sûr, et même tous les acteurs le savent, qu'il y aura donc une dépréciation des droits si on va dans le cadre de casser cet appel d'offres, pour en tout cas de sortir de ce contrat-là pour lancer un nouvel appel d'offres.
Merci infiniment d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Cédric Roussel, merci à vous. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Bon, il n'était pas très, très engageant.
Non, en fait, c'est compliqué pour un politique de répondre à cette question. Vous estimez, Alexandre Priam, qu'il y a une responsabilité de la Ligue, c'est-à-dire qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils n'ont pas été suffisamment prudents.
Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas quelqu'un d'important pour exiger effectivement une responsabilité de la Ligue de football professionnel. Malgré tout, elle doit quand même, je pense, dès maintenant faire face à ses responsabilités, à ce choix d'avoir été un peu aveuglé par les montants. Et ce que je peux comprendre parfaitement, quand on imagine, il faut quand même expliquer que la Ligue 1, le football français, a toujours voulu être au niveau des autres ligues européennes. On parle de pas loin de 2 milliards pour la première ligue. Voilà, en Espagne, c'est des montants aussi astronomiques. La Serie A, ainsi de suite. On essaye d'être dans cette même sphère-là. Et il y a une occasion pour la Ligue de football professionnel, justement, d'intégrer cette sphère des très forts droits du football mondial et à la foncer. À la foncer sans se poser de questions.
Parce qu'il faut expliquer que ces droits, c'est 780 millions d'euros
pour la Ligue 1,
représentent les droits de diffusion télé.
C'est ça.
Et financent les clubs.
Et finance les clubs, comme le disait le député.
C'est bien là le problème, c'est que sur le dernier rapport des NCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, qui regarde les comptes des clubs, qui ne prenait pas en compte ce contrat Mediapro, parce que le dernier rapport, c'est 2018-2019, on s'aperçoit que les clubs sont télédépendants à 47%, les clubs de Ligue 1. 47%, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recettes billetterie au moment où on se parle. Donc les 47%, c'est plus que 47%. Et les montants de droits télé ne sont plus les mêmes. C'est plus 750, mais 1,1 milliard qu'on devrait avoir. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, le problème de défaut de médias pro pour le football français, c'est à peu près, en gros, autour de 75 à 80% des revenus des clubs.
Mais moi, je vais vous retourner à cet argument. Comme il y a moins de personnes, comme il n'y a plus de public dans les stades, ils n'ont plus qu'un seul choix, c'est de regarder la télévision. Donc, mécaniquement, ils devraient, et Media Pro aurait pu s'imaginer avoir de nombreux abonnés, puisque on peut plus voir les matchs.
Je ne dis pas le contraire, je dis la tension sur les clubs de football, sur le poids de l'économie, c'est encore pire qu'avant.
Oui, mais c'est pour vous dire que la diffusion télé devient presque primordiale et importante, parce que c'est la seule façon de voir un match de foot.
Il y a un problème dans cette stratégie, c'est qu'il faut être distribué dans ce cas-là. Ouais. Il faut être disponible, donc il faut que les gens puissent regarder Media Pro. Alors effectivement, tout le monde peut télécharger l'application ou aller sur le site pour regarder, mais via la télévision, c'est plus difficile. Il faut quand même rappeler que Media Pro n'est pas distribué, par exemple, par Canal+, par le groupe Canal+.
C'est ça un petit peu qui a fait... j'allais employer un gros mot, qui a fait échouer le plan.
Oui,
le plan de Mediapro qui espérait revendre ses droits, je crois que c'est 320 millions d'euros, pour avoir le droit de diffuser le dimanche soir, c'est ça?
Oui, mais alors évidemment, Maxime Sada n'a pas sauté sur le truc.
Mais est-ce que c'est pas ça qui a fait déraper le montage financier?
Il y a un autre truc, le problème du montage et de l'opération financière, c'est que Mediapro avait demandé à la base aux opérateurs, donc Télécom, de lui verser un minimum garanti indépendant du nombre d'abonnés, pour diffuser la chaîne, ils ont refusé, c'est un point important, et ils ont dû donc abaisser leur prétention de 200 millions par opérateur à 120 millions, puis à 50 millions, et aujourd'hui on parle de quelques millions. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on vous disait hier, vous allez avoir 300 millions par opérateur, enfin 300 millions en tout, finalement vous allez avoir 7 ou 8.
Je voulais vous demander,
je pense que Vincent Chaudel voulait réagir justement sur ça.
Le vrai sujet, c'est quelle a été la motivation de Mediapro pour rentrer dans cet appel d'offres. Alors, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, il y avait le sujet de l'Italie. Or, au moment, et dans sa conférence de presse, Jaime Roures l'a évoqué, il était dans une opération d'introduction des Chinois dans son capital. Avec les droits italiens, il y avait un intérêt pour les Chinois.
Oui.
Mais en perdant les droits italiens, il fallait tout de suite compensé par d'autres droits. D'où l'intérêt, premier intérêt de Mediapro pour rentrer dans cette compétition. Et le deuxième point, c'est que si on revient sur le métier de Mediapro, c'est un producteur, ce n'est pas un diffuseur. Et donc, l'approche de Mediapro, c'était en gros, j'achète les droits, et je les revends, je fais du trading. Et donc là, mon sujet n'est pas le même que ce que m'a imposé la Ligue, c'est-à-dire d'avoir une chaîne et d'opérer. Opérer, c'est pas le même métier. Diffuser, c'est pas le même métier.
Ils s'imaginaient pas devoir créer une chaîne.
Bah oui, c'est
pas
sûr.
Ce qu'ils souhaitaient au départ quand ils ont fait leur proposition. Et donc c'est ça qui change en partie l'équation.
Parce que la chaîne, pour être rentable, il fallait 2 millions d'abonnés, il y en a 600 000.
C'est 3,5 millions, on parle.
3 millions, 3,5 millions.
Et le chiffre officiel, c'est 600 000.
Ouais. Ouais.
Je pense que c'est peut-être un peu surévalué, mais
quand on sait que Bein Sport n'a jamais été rentable et n'a jamais réussi cette équation aussi.
C'est ça aussi où on peut s'interroger sur le montage qui a été fait.
Ce chiffre de 3,5 millions, il est complètement utopique. Quand on regarde que, par exemple, le Paris Saint-Germain Olympique de Marseille de la saison dernière a ramené 1,9 million de téléspectateurs au maximum, d'abonnés, c'était la meilleure audience de Canal Plus sur le football français l'année dernière, 1,9. Donc qui va payer aujourd'hui 25 euros ou 29 euros Mediapro pour voir de la Ligue 1?
D'où ce que disait Valérie, la responsabilité de la fédération, de la Ligue, qui est au courant de ça.
Et est-ce que Didier Quillot et la présidente Nathalie Bouet de la Tour vont rendre la prime qu'ils ont touchée, à votre avis, parce qu'ils ont été récompensés pour ce deal à l'époque?
Oui, mais je pense qu'ils pourraient être poursuivis aussi, peut-être.
Ouais. Ça, c'est dans les possibilités? Je sais pas.
Vincent Chaudel. Si on peut juger la négligence, oui, peut-être.
Oui, on peut l'employeur pour Didier Quillot, Nathalie Bois de la Tour, elle était présidente, donc c'est une autre position, une autre responsabilité. Mais l'employeur, aurait pu s'en émouvoir et actionner une notion de responsabilité. Maintenant, je pense que le vrai sujet du football français aujourd'hui Mais le temps des responsabilités pour venir, c'est surtout de trouver très vite des solutions, parce que on est dans un temps sportif, temps des affaires et un temps judiciaire qui sont absolument pas alignés.
Ouais.
Le temps judiciaire, ça prendra des années. Le temps de négociation, le temps commercial, ça peut prendre des mois. Mais le temps sportif, c'est de semaine en semaine qu'il y a des matchs. Donc si on trouve pas de solution là, on a des matchs qui rapporte zéro, entre guillemets.
Et qui seront diffusés ou pas? Moi, je voulais poser aujourd'hui. Par rapport à nos éditeurs, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui sont abonnés à Téléfoot? Qu'est-ce qui va leur arriver et qui va diffuser ces matchs? Est-ce que le grand gagnant, ça va être Canal+? Il y a deux questions.
Alors, c'est très simple. Déjà, si le catalogue change, c'est un motif de rupture, de résiliation.
Oui, donc,
alors il n'y aura pas de remboursement pour le coup.
Il y a plusieurs cas. Hein.
Ouais. Ouais.
Y a, vous avez payé à l'année, enfin, vous avez pris une adhésion à l'année, au mois. Donc là, vous pouvez sortir très vite.
Ouais, et à l'année, vous avez le droit de changer le catalogue change. Par contre, ce qui est très important, et pour moi, c'est quand même la base, et je ne comprends pas d'ailleurs que le football français aujourd'hui ne se mobilise pas, c'est qu'aujourd'hui, Téléfoot, donc Mediapro, diffuse du football gratuitement. Sans aucun problème, hein, continue de diffuser tranquillement, sans rien payer, mais par contre voilà. Et je comprends pas aujourd'hui que le football français ne dise pas non, on ne joue pas en fait. Mmh. On ne joue pas puisque vous nous payez pas. Donc pourquoi on jouerait?
Bien sûr.
Il y a deux choses. Le côté habile de Ramiro Reyes dans cette conférence de presse, c'est de dire moi j'essaie de trouver des solutions. Donc là on est quand même dans une procédure judiciaire.
Il
qui
a dit
est
presque 10 fois hier.
Oui.
Sauf qu'il a refusé d'aller à l'Assemblée nationale pour être auditionné. Hein.
Oui, mais ça veut dire que par rapport au tribunal, il est dans une posture de je suis bon élève, j'essaie de trouver une solution. Donc là, je gagne du temps.
Et oui,
donc
c'est ça,
tant qu'il est dans cette position-là, on ne peut pas lui retirer, il doit les matchs, mais on ne peut pas lui retirer les matchs, on ne peut pas les opérer autrement. Et deuxièmement, on est dans une saison très particulière où les clubs ne peuvent pas se permettre de dire on ne joue pas, parce qu'on a l'Euro 2020 qui va jouer en juin 2021, et on est dans un calendrier très contraint. Donc tous les matchs qui seront reportés vont poser de gros problèmes. Le rugby, qui est un sport que vous suivez beaucoup sur Sud Radio, et dans cette problématique-là, on est dans une année où le calendrier est très compliqué.
Très compliqué. La conséquence pour les clubs français, on a entendu tout à l'heure Cédric Roussel qui disait qu'il y avait un vrai, vrai danger. Alors là, il y a une solution qui a été trouvée sur le court terme, mais il y a un danger pour les clubs français, parce que ce qu'il expliquait aussi, enfin vous l'avez entendu, c'est tout ce qu'il y a autour du foot. C'est foot business, justement.
Oui, c'est-à-dire que quand... Le foot business, c'est pas uniquement payer Neymar, Mbappé et les autres joueurs, c'est aussi tous les salariés qui est autour. C'est-à-dire, l'économie du football, c'est entre 35 et 40 000 salariés.
Ouais, c'est ça.
C'est colossal. On se rend pas bien compte de l'impact qu'a eu, par exemple, l'arrêt des compétitions au printemps dernier, qui a été une décision très douloureuse pour le football français, comparé à ses voisins qui ont repris, par exemple. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et il faut s'y attarder et s'y pencher très vite. La solution, je pense qu'il faut absolument trouver une solution avec Mediapro qui paye ou une alternative avant la trêve hivernale.
Mais quelle alternative?
Est-ce que Canal+, je rebondis sur ce que vous dites Valérie, est-ce que Canal+ ne va pas devenir le grand sauveur et c'est eux qui vont faire une vraie opération
et
le foot va perdre beaucoup d'argent?
En fait, le problème, c'est que Canal+ ne peut pas le faire tout seul. Pourquoi? Parce que s'il le fait tout seul, ça sera un prix probablement divisé par deux. Or, il y a une interdépendance entre le diffuseur et les clubs. C'est-à-dire que si je donne beaucoup moins d'argent, je vais avoir un spectacle beaucoup moins attrayant. Donc,
Pourquoi
qui va parce
que je ne vais pas jouer moins bien.
Il y aura des joueurs de
moins bonne qualité. C'est ça qui finance les joueurs.
Il y a vraiment cette interdépendance-là. Donc c'est pour ça que Canal+ ne sera pas en capacité. Canal+ n'aura pas d'argent magique.
Ouais, c'est ça.
Donc ils payeront ce que leur nombre d'abonnés peut faire. Donc
peut leur offrir. Alexandre, vous êtes plus optimiste sur une solution ou pas?
Oh non, pas du tout.
Non,
sincèrement. Je vais être très honnête. Non, je suis pas du tout optimiste. Et d'ailleurs, pour moi, effectivement, la question du sauvetage par Canal+, pour l'instant, n'a pas lieu d'être parce que Maxime Sada ne payera jamais le prix qu'il aurait. Jamais seul, en tout cas. Et je pense même pas qu'il paierait la moitié de ce que ça. Il faudrait voir, mais j'ai quand même de sérieux doutes là-dessus, notamment parce que pour combler l'antenne de Canal+, il a fait appel à d'autres droits, notamment dans le rugby. La Formule 1 qui a pris beaucoup de place, effectivement, la MotoGP, la Pro D2.
Donc il n'y a pas d'argent magique.
Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus dans les grilles, donc il faudrait dans ce cas-là recréer des chaînes. Bon, ça se fait assez rapidement. Pour moi, le problème majeur maintenant de Mediapro, c'est qu'il va falloir prouver que Mediapro ne peut plus subvenir subvenir aux besoins du football français. Et là, Mediapro, d'un côté, essaye de gagner du temps. De l'autre côté, la Ligue de football professionnel, je pense, en tout cas, j'imagine, va essayer de montrer à quel point Mediapro est un mauvais payeur. Si on en croit un petit peu les agences de notation aujourd'hui, ils sont, enfin, notamment, il me semble que c'était Fitch qui le place juste au-dessus du défaut de paiement. C'est-à-dire que
aujourd'hui, ils sont juste en dessous, hein, je pense.
Oui, non, parce qu'aujourd'hui, c'est un défaut de paiement, très clairement. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le fonds nécessaire. Attention quand même, malgré tout, il faut apporter un petit peu de blanc dans l'histoire, c'est qu'ils ont derrière des actionnaires et des financiers chinois qui sont très très puissants.
En fait, je pense que l'enjeu, c'est de réussir à sortir du cadre Mediapro France. Parce que Mediapro Espagne, il y a effectivement des actifs, des avoirs. Il y a une capacité à honorer. Et donc là, c'est pour ça qu'on est sur une guerre juridique et d'avocats qui s'enclenche avec le tribunal qui est dedans. Et si on veut aller au-delà de la France, je pense que tôt ou tard sur ce dossier-là, le politique va rentrer dans la danse, parce que on n'est pas, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le football n'est pas un sport comme un autre.
Non.
C'est un sport qui a un impact économique important, qui a un impact social important et qui a un impact politique.
Évidemment. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve pour les livres avec Gérard Collard.